Couleur FM, Espace Public, Thierry Borde, bonjour. Voilà, c'est le premier magazine Espace Public de l'année 2016 et j'en profite pour vous souhaiter à toutes et à tous une excellente année. Aujourd'hui, nous allons promener notre regard sur un espace public sous surveillance, mais sur un espace public plein d'espoir et de mobilisation citoyenne. Nous allons revenir à la COP21 qui se déroulait à Paris en décembre. Retour au Village Mondial des Alternatives à Montreuil où nous avions rencontré Lisa Giacchino, la rédactrice en chef du mensuel L'Âge de Fer. L'occasion de vous faire découvrir ou redécouvrir ce journal mensuel qui nous est cher ici. Nous parlerons de l'état d'urgence avec Patrick Canin, le président de la Fédération de la Ligue des Droits de l'Homme du Rhône, et Thomas Fouret, le président de la section lyonnaise du Syndicat des Avocats de France. Ils souhaitent ensemble mettre en place un observatoire des dérives de l'état d'urgence. Enfin, nous irons rendre visite aux citoyens burkinabés qui s'organisent notamment autour du mouvement du balai citoyen à l'origine du soulèvement populaire de septembre dernier. Annick Barrand, de la web-télévision Soli TV, leur a consacré un documentaire intitulé « Citoyens façon faso ». Mais tout d'abord, retour à Montreuil lors de la COP21 à la rencontre du journal L'Âge de Fer.
Au studio de Médias Citoyens, c'est Alternatiba. On est le samedi 5 décembre à Montreuil pendant la COP21. Et nous recevons Lisa Giacchino qui est la rédactrice en chef du mensuel, le journal L'Âge de Fer. Bonjour Lisa.
Bonjour.
Comme beaucoup d'autres médias associatifs, coopératifs, alternatifs, vous êtes présent ici pour représenter un petit peu une autre forme de presse. Et voilà, on va peut-être commencer par vous laisser nous représenter L'Âge de Fer, même si on le connaît presque tous.
Donc L'Âge de Fer, c'est un mensuel papier national, mais qui est basé à la campagne, dans les Alpes de Haute-Provence, et qui met en avant des expériences citoyennes alternatives dans tous les domaines, économique, l'écologie, la solidarité... tout ce qui vise à créer du lien social, tout ce qui vise à la réappropriation citoyenne de l'économie, de la culture, de l'éducation, de la décision politique. Voilà, ça touche vraiment à tout, mais à chaque fois, l'idée c'est de retrouver du pouvoir d'agir sur tous les domaines de la société.
Alors L'Âge de Fer, on dit souvent que notre secteur de presse a du mal à vivre, mais L'Âge de Fer, c'est une histoire qui commence à durer maintenant.
Oui, L'Âge de Fer, ça fait 10 ans. Ça a été créé donc en 2005 par une association. En 2011, il a été repris par ses salariés sous forme de coopérative. Et ça fait 10 ans qu'il évolue petit à petit avec un très fort soutien de la part de ses lecteurs. Donc des personnes qui ont été là dès l'origine pour soutenir sa diffusion. Et qui continue à nous aider en créant des points de vente, en le diffusant autour d'eux, en nous aidant à tenir des stands, en nous donnant des idées de sujets. Enfin, c'est vraiment une histoire collective. Les lecteurs sont vraiment très importants.
C'est ça la particularité. Hein. Ce sont les lecteurs qui ont toujours été vos diffuseurs finalement, les meilleurs représentants de L'Âge de Fer.
Ouais, c'est vraiment eux qui ont permis de construire le réseau de vente. Alors maintenant, on a des magasins, on a des points de vente qui fonctionnent de façon un petit peu plus classique, mais tous ces points de vente se sont créés au départ grâce aux lecteurs. Puis les lecteurs continuent vraiment à nous faire connaître et quand on a fait une campagne d'abonnement l'année dernière, ils ont vraiment ils ont répondu très fort et on fait pas de publicité, c'est vraiment eux qui nous permettent de nous faire connaître.
Combien d'exemplaires aujourd'hui de diffusion pour L'Âge de Fer ?
On tire à 23 000 exemplaires. On a presque 12 000 abonnés et à peu près 10 000 exemplaires qui partent dans les points de vente. Voilà, on a un système en fait où on ne tire que ce qu'on va vendre.
Alors, c'est intéressant parce que vous parliez du modèle, vous êtes passé donc d'un modèle associatif à un modèle coopératif. Donc aujourd'hui, vous êtes sous un modèle de scope. Donc ce sont les salariés de L'Âge de Fer donc qui ont des parts dans la société. Est-ce que vous envisagez peut-être vous élargir également, ouvrir des parts pour vos lecteurs ou pour d'autres sociétaires tels que le modèle d'UMSIC par exemple?
C'est quelque chose qu'on a dans un petit coin de la tête. Pour l'instant, on l'a pas vraiment formalisé. En fait, on a eu des étapes à franchir. Quand on a créé la SCOP, il a d'abord fallu apprendre à travailler ensemble en autogestion, comme on dit. Donc avec, puisqu'on fonctionne, comment dire. Quand on est en SCOP, on peut travailler de façon assez classique avec un gérant qui joue le rôle de chef de l'entreprise. Et se répartir les tâches comme ça de façon hiérarchique. Nous, on a choisi de ne pas travailler comme ça. Et donc, on prend toutes les décisions collectivement et chacun exerce les responsabilités dans son domaine. Mais ça prend du temps. Il faut apprendre à travailler de cette manière-là. C'est pas ce qu'on nous apprend à travailler sans, sans avoir quelqu'un au-dessus qui décide. Donc il y a eu ça. Et puis la deuxième chose qu'il nous fallait faire, c'était consolider économiquement le journal, puisqu'on a eu plusieurs années déficitaires. Alors là, ça va beaucoup mieux depuis l'année dernière et la campagne d'abonnement. Là, voilà, ça nous a vraiment redonné de l'air. Donc, on voit l'avenir de façon assez sereine. Et on peut commencer à réfléchir à d'autres choses. Mais ça, voilà, l'idée d'entraîner les lecteurs dans une SIC, donc une coopérative d'intérêt collectif. Alors qu'on était déficitaire et très fragile économiquement, ça nous convenait pas, quoi.
Alors, une question quasi rhétorique ou un peu bête, que fait l'âge de fer au milieu d'Alternatiba, au milieu de la COP21?
Ah bon, on est à notre place et quand je suis arrivée tout à l'heure, j'étais trop contente, ça fait du bien parce que moi je suis à Paris depuis le début de la semaine pour suivre un peu ce qui se fait du côté des citoyens autour de la COP21, et ben c'est vrai que voilà, c'est d'un côté c'est encourageant parce qu'on voit que malgré le contexte, il y a plein de gens qui sont là, il se fait plein de choses, les gens ne lâchent pas, mais en même temps c'est vraiment un contexte très dur. Voilà, très hier froid. J'ai vu quelqu'un qui était assigné à résidence, qui devait pointer au commissariat tous les jours. Il est sur Paris, mais il y en a une vingtaine en France, des militants écologistes qui sont dans cette situation. Voilà, il y a des forces de l'ordre partout. Enfin, donc ça fait du bien d'être ici à Alternatiba. Et puis après, ben ce qu'on fait, ben voilà, c'est vraiment on est à notre place en montrant tout ce que font les gens pour essayer de proposer des solutions citoyennes et pas des solutions élaboré à renfort de chiffres, de courbes et des solutions qui sont en fait des astuces qui permettent de faire durer le capitalisme, quoi.
Comme ce qui se passait au Grand Palais hier, vous l'avez couvert. D'ailleurs, je rappelle la personne assignée en résidence dont vous parliez, elle s'appelle, ou vous l'appelez en tout cas dans votre article, Joël, et on peut retrouver votre article sur le site de l'Âge de Fer dont on laissera l'adresse tout à l'heure. Qu'est-ce que vous avez vu comme belles initiatives citoyennes?
Alors moi j'ai pas encore fait le tour d'Alternatiba. Par contre j'ai passé pas mal de temps avec les gens qu'on appelle les zadistes, enfin les gens qui voilà, maintenant ils utilisent plutôt le terme de territoire en lutte, mais donc des gens de Notre-Dame-des-Landes, de Bure, de plein de personnes qui essayent de protéger des territoires contre des projets qu'ils jugent inutiles. On sent qu'on est en train de passer une étape. Ces gens ont beaucoup été dans l'occupation et la défense et donc l'opposition. Et là, il y a des choses qui se construisent, des réflexions sur le long terme à Notre-Dame-des-Landes. Il y a toute une réflexion sur comment gérer le foncier en commun, comment vivre en autonomie sur un territoire en permettant à toute la diversité des gens qui sont là de s'entendre et que ça convienne à tout le monde, que ce soit pas exclusif. Donc je pense que voilà, ces expériences là sont intéressantes et sont assez porteuses d'espoir.
Est-ce que vous pensez qu'autour de la COP21, vous qui êtes une observatrice régulière justement des acteurs et des militants de la société civile, est-ce que on est en train de passer justement à une autre dimension, que ces combats-là ne restent plus aux mains des seuls militants, mais que ça s'élargit maintenant?
J'espère. Ce qu'a fait Alternatiba, en tout cas, c'est très fort pour ça, parce qu'ils ont réussi quand même à populariser ces problématiques-là et à montrer à des gens qui n'étaient pas forcément dans l'action militante qu'ils pouvaient agir et que leurs actions pouvaient avoir un effet d'entraînement. Voilà, je pense que oui, ça, il y a un mouvement. Après, pour l'instant, on peut dire que c'est pas assez, quoi, mais en tout cas, c'est un début.
Ça frémit.
Voilà.
Alors justement, on parlait un petit peu de populariser ces mouvements. Vous, au niveau de vos lecteurs, de l'évolution de ces lecteurs, est-ce que vous avez une idée un petit peu de quel type de gens vous lisent aujourd'hui?
On n'a pas fait d'études de marché ou de lectorat. Non, il y a plein de gens. Il y a des grands-mères, il y a des étudiants, des paysans, des ingénieurs, des enseignants, des gens qui ne travaillent pas et qui veulent être en dehors du système, des chômeurs. Enfin, il y a vraiment, il n'y a pas vraiment de lecteur type. Après, Bah, y a beaucoup de gens qui sont sensibilisés aux questions écolo, aux questions de l'économie sociale, etc. Mais il y a aussi des gens qui accrochent parce que ça, il y a une forme de regard positif en fait, comme on met en avant des expériences concrètes et qui vont dans un sens qui nous paraît bon. Ben voilà, il y a des gens qui sont pas forcément militants, mais qui sont contents d'avoir une information qui leur donne envie d'agir, qui leur donne un peu la pêche, plutôt que des choses essentiellement anxiogènes et qui annihile un peu la volonté d'agir, quoi.
Bon, en résumé, il faut conseiller à 100% de la population de lire L'Âge de Fer, parce que non seulement ça fait du bien, mais en plus c'est très constructif, parce qu'on se tient au courant de tout ce qui se passe dans ces belles initiatives partout en France et même ailleurs. Lisa Giacchino, on vous remercie beaucoup d'être passée nous voir ce matin. Il faisait très froid, c'était très courageux. Merci. Et on va juste rappeler comment on peut se procurer L'Âge de Fer, vous retrouver, un site internet peut-être.
Oui, sur donc le site www.lagedefer, donc le verbe faire, -lejournal.fr.
Bravo.
Et il y a la liste des points de vente, voilà, sur le site.
Voilà, vous retrouverez tout sur ce site internet. Voilà. Merci, Lisa.
Vous êtes bien sûr Couleur FM, vous venez d'écouter Rosa la Rouge, le bel hommage de Claire Dieterzy à Rosa Luxembourg. Et auparavant, nous avions entendu Lisa Giacchino, la rédactrice en chef du journal L'Âge de Fer, qui évoquait déjà début décembre les effets indésirables de cet état d'urgence dont on parle tant, en bien comme en mal, selon les cas. En effet, si une sorte de consensus général a prévalu lors de la mise en place de l'état d'urgence suite aux attentats, des voix ont ensuite commencé à s'élever face à ces dérives. Militants écologistes assignés à résidence, perquisitions arbitraires, la reconduction annoncée de l'état d'urgence inquiète de nombreux acteurs. Parmi eux, la Ligue des droits de l'homme. Mardi 19 janvier, l'association a saisi le Conseil d'État pour demander la suspension de l'état d'urgence. Dans tous les départements de France, soutenus par le Syndicat des avocats de France, la Ligue des droits de l'homme va mettre en place des observatoires. Mardi 19 janvier à Lyon, nous avons rencontré Patrick Canin, le président de la Fédération de la Ligue des droits de l'homme du Rhône, et Thomas Fouret, le président de la section lyonnaise du Syndicat des avocats de France, lors d'une conférence de presse. Patrick Canin.
Cet observatoire a été créé donc pour dénoncer les dérives en matière d'état d'urgence, c'est-à-dire que lorsque nous serons informés de dérives donc par les individus, par les personnes, nous instruirons les dossiers et ensuite, après donc cette instruction, nous rendrons public avec leur autorisation les diverses dérives constatées.
Est-ce que vous avez déjà un premier bilan sur le Rhône?
Alors, on n'a pas un premier bilan en tant que tel, parce que nous sommes saisis de 3 dossiers, mais en l'état, c'est à l'instruction, donc on ne peut pas en parler pour l'instant.
Par contre, cet observatoire est aussi le fruit d'une exaspération.
Oui, parce qu'on constate que les juridictions ne remplissent pas leur rôle, notamment les décisions administratives, décisions des juridictions administratives sont très en retrait par rapport à ce qu'on pourrait espérer d'un contrôle effectif dans une démocratie. Il y a beaucoup de rejets de requêtes de personnes qui se plaignent de dérives. La société civile doit, de ce point de vue, pallier cette absence de contrôle. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons souhaité qu'un observatoire soit instauré pour justement que les victimes ne soient pas délaissées.
J'allais dire, la difficulté, c'est pas que le préfet, finalement, par cet état d'urgence, a les pleins pouvoirs alors qu'il prenne une décision bonne ou mauvaise. Quelque part, est-ce qu'on peut attaquer ces décisions?
Alors, on peut attaquer. Non, il est prévu un contrôle administratif. Mais les conditions qui sont posées par les juges sont telles qu'en l'état, on peut estimer que le contrôle n'est pas suffisant. Il n'est pas suffisant.
Vous parlez de dérives, on parle de quoi? C'est quoi les dérives?
Alors, les dérives, c'est, par exemple, les perquisitions en pleine nuit qui sont menées de manière brutale, ou même en plein jour, de manière brutale, comme on a pu le voir à certains endroits où les portes sont fracturées, les affaires, les meubles sont tout placés sans dessus-dessous, les personnes menottées, il peut s'agir de cela. Il peut s'agir aussi d'assignations abusives. Il y a énormément de possibilités de ce point de vue.
L'état d'urgence et son application, ça n'est pas un fourre-tout, non ?
Alors c'est un fourre-tout. C'est une mesure qui est extrêmement dangereuse pour les libertés publiques. La durée de l'état d'urgence pose un sacré problème aussi, parce qu'on prévoit un régime d'exception qui dure et qui porte atteinte aux droits et libertés, et c'est cela qui pose problème.
Vous parlez de dérives, et des dérives qui pourraient se faire sur des présomptions très très fines, quoi. Sur des dénonciations, c'est ce que vous expliquiez tout à l'heure.
Alors, les dérives seront l'objet de contrôle de notre part. On regardera s'il y a des éléments suffisants pour qualifier les faits qui nous seront remontés comme étant des dérives.
Et vous craignez que parfois il n'y ait pas d'éléments suffisants?
Alors, il se peut effectivement que les personnes n'osent pas dénoncer certains faits. C'est un peu la difficulté de notre démarche. C'est la raison pour laquelle on souhaite que dans cet observatoire, il y ait un maximum de partenaires. Au niveau national, des appels ont été lancés par la Ligue et il y a quand même 90 associations et organisations qui sont partenaires. Donc on souhaite que sur place, dans le département du Rhône, il y ait ce relais.
Vous parlez des dérives, des portes cassées, des gens réveillés au milieu de la nuit, mais c'est ce qui se passe dans le cadre d'une perquisition. Pourquoi là, ça serait une dérive ?
dans le cadre d'une perquisition judiciaire, je pense que vous parlez de cela, il y a quand même un minimum de règles que la police doit suivre, parce qu'elle est sous le contrôle du procureur de la République, et casser des portes, alors que dans notre histoire, dans les histoires dont, qui nous sont revenues, en matière de perquisition administrative, sont des portes cassées, alors que les personnes étaient à l'intérieur et elles auraient ouvert. Il ne s'agit pas de portes fracturées comme dans le cas d'une procédure judiciaire où vraiment une personne à l'intérieur ne bougerait pas. Et donc là, la police judiciaire aurait fait le nécessaire pour arrêter les personnes dont elle est chargée. Là, la dérive, elle est là. Elle est que, au lieu d'aller vers ce qui pourrait paraître normal en temps normal, la police se croit soutenue pour justement avoir un autre comportement. Et ça pose problème, me semble-t-il. Ce qu'il faut savoir, c'est que la France a connu environ 22 lois de lutte contre le terrorisme. Chaque fois, les droits fondamentaux des citoyens ont été réduits. Pour quelle efficacité ? Là, on a une loi sur l'état d'urgence qui renforce encore les pouvoirs d'administration et qui réduit les libertés. Mais cette loi, dans la rédaction telle qu'elle est, peut être utilisée à l'égard de quiconque. Ça peut être à l'égard de n'importe quel citoyen. Parce qu'on nous dit qu'il faut avoir des raisons de penser que le comportement de la personne serait une menace grave pour l'ordre public ou la sécurité. Donc on peut y placer beaucoup de choses. Par exemple, j'ai pas un exemple précis là, mais vous voyez tout de suite. Oui, une menace à l'ordre public, c'est très large, c'est tout. Ça peut être, ça peut concerner tout le monde.
Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous disent, c'est le prix à payer pour notre sécurité?
Alors, c'est pas le prix à payer pour notre sécurité. Parce que la loi sur l'état d'urgence, si on croit que c'est une loi qui va nous préserver du terrorisme, on se trompe totalement. On ne peut que relever l'inefficacité de nos services de renseignement parce que, admettons qu'un service de renseignement ne puisse pas prévoir qu'un individu isolé s'empare d'un couteau et aille agresser quelqu'un. Mais pour les attentats de Paris du 13 novembre, ils étaient 8. Et quand on regarde toute la logistique derrière, ils étaient certainement plus de 30, voire 40. Dans le journal Le Monde, il y avait en double page toutes les personnes qui pouvaient, de près ou de loin, avoir participé au fait. Comment un service de renseignement de la 5e puissance du monde n'est pas capable de détecter au moins quelques éléments. Ce qui s'est passé après en Seine-Saint-Denis, c'est sur dénonciation de quelqu'un que les forces de police ont pu aller déloger le terroriste. Sur dénonciation de quelqu'un. Bon, voilà. 22 lois antiterroristes pour un tel résultat.
Thomas Fouret.
Notre syndicat souhaite s'associer à la Ligue des droits de l'homme parce qu'on constate que les mesures prises, que ce soit les perquisitions, les assignations à résidence, se multiplient et qu'on a du mal, nous, à savoir exactement ce qui se passe. Et on a l'impression que les personnes qui font l'objet de ces mesures, judiciaires ou administratives, n'osent pas aller devant le juge, n'osent pas faire valoir leurs droits parce que... C'est un peu notre impression, peut-être qu'il y a une honte telle d'avoir fait l'objet d'une perquisition, d'une assignation, que quand bien même elle est infondée, les gens ne vont pas franchir la porte d'un cabinet d'avocats ou d'une association pour se renseigner ou faire valoir leurs droits. Donc on pense qu'il faut qu'on se réunisse, qu'on réfléchisse ensemble et qu'on incite les gens. C'est le but de cette réunion, c'est le but de la création de cet observatoire pour donner finalement le courage aux gens pour venir... nous saisir, nous informer, nous dire ce qui s'est passé. On a l'impression pour l'instant qu'il y a une sorte d'omerta qui existe, une sorte de tabou autour de ce qui se passe, parce que l'opinion publique soutient globalement ces mesures, parce que aussi l'opinion publique ne sait pas concrètement ce qui se passe. Si on veut pouvoir nous savoir ce qui se passe, il faut que les gens viennent vers nous, avocats, associations, pour qu'on puisse aller défendre et comprendre concrètement ce qu'il y a un contre-pouvoir qui existe à l'égard du préfet.
Et trop de pouvoir, justement, de l'homme préfet ?
Bah, pour l'instant, quand un pouvoir se définit par un contre-pouvoir, par définition, donc le pouvoir, il est exponentiel, il a tendance fatalement à s'agrandir, à s'accroître, et il faut lui poser des limites. Et les limites, c'est le juge, sauf que, par définition, le juge n'est saisi qu'après, il n'intervient qu'après. Il n'y a pas d'intervention préalable du juge. C'est le préfet qui décide d'assigner, c'est le préfet qui décide d'une perquisition. Et si le juge n'est pas saisi, comme dans le cadre des enquêtes pénales classiques, ben les choses, personne n'en est informé, les gens ne font pas valoir nos droits, ils ne sont pas protégés. Donc il faut que les gens n'aient pas peur, il faut que les gens aient conscience qu'ils ont des droits, et ça, ça se construit ensemble avec, en particulier, la Ligue des droits de l'homme.
Alors vous n'avez pas de vision sur le nombre de dérives, l'importance des dérives?
Non, c'est l'observation. Il y a quelques cas dont vous avez entendu parler au niveau national, hein, sur les militants écologistes, sur un restaurant qui a été fracassé, il y a eu une fermeture d'un restaurant aussi à Grenoble, une pizzeria. Maintenant, concrètement, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai des cas, en effet, de ce que je peux voir dans des décisions rendues par des juges administratifs, où il suffit, en effet, qu'une personne se rende en Turquie quelques mois pour que on pense qu'il se radicalise. Il suffit que la personne se fasse pousser la barbe pour qu'on pense qu'elle se radicalise. Il suffit qu'elle soit allée à la Mecque pour que... Voilà, il y a des cas qui existent à travers la France. On peut le voir à travers les décisions des juges administratifs. On a besoin d'allier nos compétences, d'inciter les gens à nous dire ce qui se passe. Il y a eu plus de 300 perquisitions qui ont été menées, qui ont donné lieu à une trentaine simplement de procédures judiciaires, aucune pour des faits terroristes. Je pense, oui, qu'il y a un problème. Il y a un hiatus entre les intentions du préfet, entre les intentions de l'État et ce qui se passe concrètement sur le terrain et la réponse judiciaire qui est menée. Ce hiatus, il faut qu'on le lève, il faut qu'on le dévoile, il faut qu'on explique, mais ça, c'est à partir évidemment de situations individuelles. Notre travail, de toute façon, est d'être aux côtés des gens pour faire valoir leurs droits et quoi qu'on leur reproche.
Justement, quels sont les recours par rapport aux personnes qui ont subi l'effet de l'état d'urgence ?
Alors, il y a deux volets, hein. Il y a le volet perquisition et il y a le volet assignation à résidence. Le plus connu, c'est le volet assignation à résidence, hein, du fait de ce qui s'est passé avec les militants écologistes, où les gens sont astreints à rester la nuit à leur domicile, doivent se présenter trois fois par jour au commissariat. D'après ce que j'ai pu voir, c'est 9h, 14h, 18h, le commissariat le plus proche de leur domicile, interdiction de quitter Lyon. Donc pour ces personnes-là, c'est un recours devant le juge administratif. En référé, le juge se prononce selon le référé entre 48 heures et 3 semaines et un recours au fond pour le référé suspendre la mesure et au fond pour annuler la mesure. Donc ça, c'est sur le volet assignation à résidence. Il y en a eu 10 dans le Rhône. Après, j'ignore les faits. Le tribunal administratif de Lyon, par exemple, est compétent pour d'autres départements. Il est compétent pour le département de l'Ain, de la Loire, etc. Donc là, je peux juste vous dire sur les 10 qu'il y en a eu 10 dans le Rhône. S'agissant du volet judiciaire, là, il n'y a pas vraiment de contrôle parce qu'on peut uniquement contrôler les conséquences, puisque vous pouvez avoir une perquisition décidée par le préfet qui ne débouche sur rien. Il n'y a pas eu d'ouverture d'information ou d'enquête en matière de terrorisme. Ça a été acté, c'est certain. Après, il y a eu 31, d'après ce que j'ai pu voir, ouverture d'enquête pour des faits dits de droit commun. Hein. Ça peut être du stupéfiant, ça peut être des armes, ça peut être je ne sais quoi. Je ne connais pas la gravité. À partir de là, le juge judiciaire est saisi, soit dans une procédure d'urgence, comparution immédiate, soit sur une procédure plus longue, enquête ou information judiciaire. Et à partir de là, on peut éventuellement contester la perquisition qui a été menée en regard de la motivation qui a été faite, si la présence ou non de témoins. Là, c'est plus on retombe sur la cuisine un peu judiciaire du code de procédure pénale classique. La dérogation qui existe et qui est la plus parlante pour l'instant, en tout cas, l'état d'exception, c'est ces assignations à résidence, dont on ne connaît même pas le terme. Les assignations à résidence que j'ai pu voir, les personnes, il n'y a pas de terme, elles ne savent pas pour l'instant, on ne sait pas.
Mais si à la suite d'une perquisition, il n'y a eu aucune charge retenue contre la personne, qu'est-ce qu'elle peut faire pour retourner contre l'État ?
Là, il y a un recours en indemnisation, hein, tout simplement, pour la responsabilité de l'État qui a cassé votre porte, qui a dévasté votre appartement, et il faut saisir le tribunal administratif. pour une faute, la faute commise par, par l'État. Je ne cache pas que les procédures sont longues. Vous aurez une ordonnance du tribunal administratif, mais voilà, il ne faut pas hésiter à y aller. Il ne faut pas hésiter à faire valoir son préjudice en regard de ce qui a été fait, évidemment, que ce soit en novembre, en décembre ou en janvier.
Vous venez d'entendre Patrick Canin, le président de la Fédération de la Ligue des droits de l'homme du Rhône, et Thomas Fouret, le président de la section lyonnaise du Syndicat des avocats de France. Ils étaient au micro de Jean-Philippe Bonan pour Espace Public lors d'une conférence de presse collective. Pour toute question à ce sujet, vous savez que la Ligue des droits de l'homme a aussi une section à Bourgoin-Jallieu, n'hésitez pas à la contacter. Vous êtes bien sur Couleur FM et avant de partir en voyage vers le Burkina Faso avec Annick Baran, nous allons rester un peu en France en écoutant de la musique. Hommage à Michel Delpech. Chez Lorette.
À sa façon de nous appeler ses gosses, on voyait bien qu'elle nous aimait beaucoup. C'était chez elle que notre argent de poche disparaissait dans les machines à sous. Après les cours, on allait boire un verre. Quand on entrait, Lorette souriait. Et d'un seul coup, dans le son, nos problèmes disparaissaient quand elle nous embrassait. C'était bien chez Lorette, quand on faisait la fête, elle venait vers nous, Lorette. C'était bien, c'était chouette, quand on était fauchés, elle payait pour nous, Lorette. Plus encore, afin qu'on soit tranquille, dans son café, il y avait un coin pour nous. On s'y mettait pour voir passer les filles, et j'en connais qui nous plaisaient beaucoup. Si par hasard on avait l'âme en peine, Lorette seule savait nous consoler. Elle nous parlait et l'on riait quand même. En un clin d'œil, elle pouvait tout changer. C'était bien chez Lorette. On y retournera pour ne pas l'oublier, Lorette. Ce sera bien. Chouette, et on reparlera des histoires du passé chez Lorette. Ce sera bien, ce sera chouette, et on reparlera des histoires du passé chez
Retour dans Espace Public avec notre dernier sujet du jour, le Burkina Faso à travers un documentaire intitulé « Citoyens façon Faso » qui nous montre l'importance de la mobilisation citoyenne burkinabé à l'automne dernier suite au coup d'état du général Diène Déré. Le mouvement du balai citoyen, à l'initiative de ce soulèvement, continue aujourd'hui d'être actif dans le pays. Avant d'aborder le sujet avec Annick Baran, la réalisatrice de ce documentaire, je vous propose d'en écouter un court extrait.
Le Le balai parce que, en fait, en réalité, c'est un symbole, de propreté d'abord. Donc, c'est un symbole aussi qui est courant dans tous les foyers, dans toutes les familles, donc qui est forcément populaire. Et puis, on utilise un balai pour nettoyer sans se salir les mains. Et quand vous prenez un balai traditionnel africain, pas seulement d'ailleurs, puisque un balai c'est universel, prenez un seul brin, vous ne balayez pas grand chose avec. À la limite, c'est peut-être presque une ordure. Mais dès lors que vous mettez tous ces brins ensemble, eh bien, là vous pouvez déplacer de sacrés morceaux de pourriture, on va dire, et de saleté. Et donc, en ce sens-là, c'est pourquoi notre slogan, c'est notre nombre et notre force. Donc, c'est tous ces brins mis ensemble qui arrivent à nettoyer la cité.
Déborder le vase. Pendant longtemps, je pense qu'il y avait certains peuples qui a retenu, qui a empêché que cette goutte-là ne déborde. Cette goutte est encore là, elle est en train de nous éclabousser, et si nous n'y prenons garde, on va se retrouver avec un processus électoral morné.
Oui, c'est le reste de la moto comme ça. Tout est cramé, récupérable. On a juste fait ça. On a fermé, on était dedans. Et curieusement, ils ont commencé à mettre feu sur les motos. Et ils ont cramé la mienne. Mais je suis dessus. Très dessus du régime Yengeri.
Je suis citoyenne comme les autres. Et ensemble, on a lutté pour le départ du président. D'abord, contre l'article 37 qui voulait modifier. On n'était pas du tout d'accord et... Par la suite, on a vu que c'était nécessaire que lui-même il quitte le pouvoir parce qu'on avait assez. 27 ans de pouvoir, c'était pas aussi simple, c'était pas une bonne démocratie. Ce coup d'État, ça a été très fatal. Une mauvaise idée du général Yengeri. Parce que pour un général, Ça n'a pas de sens, ce coup d'État. J'étais là, en ville, deux fois, je fais un tour au maquis. Et avec aussi les camarades, on essayait aussi de manifester parce qu'on ne voulait pas. Un coup d'État, un militaire, on ne voulait plus. On en avait assez et on ne supportait pas. Et effectivement, j'étais au maquis et sur la même rue de Wemtenga, on était tous là et on a tous manifesté. Sincèrement, ce que j'ai vu, c'est très horrible. Ils tiraient sur tout ce qui bougeait. Et les cris des citoyens menacés par le RSP résonnaient. Il faut qu'on aille voter, nous trouver un président digne du pays des hommes intègres.
Annick Baran, bonjour. Vous êtes réalisatrice. Vous vous occupez aussi d'une web télé qui s'appelle Soli TV. Et on vous rencontre aujourd'hui parce que vous avez réalisé un documentaire sur le Burkina Faso et qui s'appelle Citoyens façon Faso, article 37. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur le sujet de ce documentaire? Je pense que le Burkina a vécu une période en 2015 assez particulière, assez difficile.
Oui, bah effectivement, là, on est en plein dans l'actualité du Burkina, puisque on a connu des attentats la semaine dernière. Donc c'est vrai que c'est une période assez sensible pour l'ensemble des citoyens du Burkina. Le projet, à la base, l'idée, c'était de travailler avec une association Rhône-Alpine qui a des bureaux à la fois à Lyon et à Ouaga. L'idée, c'était de développer du coup un projet de série de webdoc sur l'immobilisation citoyenne, en fait. Et au fil de rencontres dans le cadre de réseaux solidaires, j'ai rencontré donc Julien de Respublica, qui est donc l'association avec laquelle on a développé le projet Citoyen Façon Faso. Et on a du coup décidé de travailler ensemble sur un appel à projet, un appel à proposition qui s'intitule Dev Reporter Network Grant. Donc c'est un appel à proposition européen où du coup nous avons candidaté et nous avons obtenu un prix pour développer le projet. Voilà. L'objectif. Voilà,
donc, en fait, votre documentaire est l'illustration de ce projet Dev Reporter qui pousse finalement des journalistes et des ONG à travailler ensemble pour mieux informer autour des grands enjeux internationaux.
Oui, en fait, l'objectif du projet, c'était justement d'arriver à se faire rencontrer à la fois des médias, des journalistes, des réalisateurs indépendants et des structures associatives ou organisations non gouvernementales dans le secteur du développement. On a décidé de travailler sur la mobilisation citoyenne au Burkina et illustré principalement par le mouvement du balai citoyen.
Alors c'est quoi le mouvement du balai citoyen au Burkina Faso ?
Alors en fait, le mouvement du balai citoyen, ce sont des jeunes qui se sont sentis le besoin d'agir localement pour renverser un dictateur qui était au pouvoir depuis plus de 27 ans. Et leur volonté, en fait, c'était justement d'empêcher la représentation de Blaise Compaoré, qui souhaitait donc faire un référendum pour changer l'article 37 de leur constitution, article qui lui permettait de se représenter une xième fois. Le mouvement du balai citoyen a réussi à rassembler les forces et à mobiliser un bon nombre de jeunes et de citoyens, parce qu'il n'y a pas que le balai citoyen dans cette mobilisation citoyenne. Il y a d'autres structures associatives organisées qui se sont mobilisées aussi, comme la marche des spatules, donc des femmes qui ont agi dans le cadre d'une manifestation. Et d'autres associations, 2 heures pour mon pays, 2 heures pour le Burkina, des associations étudiantes. Donc il y avait un véritable élan citoyen sur ce territoire-là pour faire bouger les choses. Blaise Compaoré a dû quitter le pays. Et au cours des derniers événements, quand nous avons pris la décision d'aller tourner le film, il y a eu un coup d'État, donc par la garde présidentielle qui était encore présente sur place.
Donc en septembre, octobre 2015.
Voilà, septembre 2015. Et cette garde présidentielle, dirigée par le général Diène Déré, a décidé donc de faire un coup d'État, de prendre le pouvoir pour, on va dire, dans leurs propos, remettre un peu de démocratie sur le système électoral qui ne leur convenait pas, puisque certains proches de Blaise Compaoré souhaitaient se présenter et ils avaient été évincés des listes électorales. Donc voilà, c'était amusant de voir un général faire un coup d'État, un putsch, prétextant que c'était en faveur de la démocratie. Voilà. Donc on a tourné, on a pu s'organiser avec Apolline Traoré, parce que j'avais décidé de co-réaliser avec une cinéaste locale, de tourner après le coup d'État. C'est très difficile de tourner des images sur place au vu de la situation, parce que c'était assez violent. Il y a eu des personnes décédés, assassinés pendant ce coup d'État et blessés. Donc on a adapté le projet puisqu'on avait un scénario bien établi avec Apolline et finalement on a dû, c'est aussi ça en fait les tournages sur le terrain, s'adapter et reformater un peu les interviews qu'on avait prévues, etc. Donc on a finalement fait un ensemble d'interviews, de témoignages de différents citoyens, à la fois des femmes et des hommes qui ont été impliqués pendant ces événements.
Oui, parce que du coup, en fait, vous partez avec un point de vue donné sur la situation, en vous disant on va rencontrer des citoyens qui vont nous raconter une certaine situation, puis finalement vous arrivez là-bas, la situation elle-même change, et du coup les discours des citoyens eux-mêmes vont changer.
Oui, tout à fait. En fait, on est parti sur une période qui était censée être la période de la pleine campagne électorale, et le coup d'État a démarré la veille du lancement de la campagne. Voilà, puisque le vote, les élections devaient se tenir le 11 octobre dernier, et le coup d'État a quasiment démarré un mois avant. Voilà, c'était vraiment un moment opportun pour justement les candidats de pouvoir aussi se détacher un petit peu de cette situation. Heureusement, les suites, l'histoire a fait que les putschistes n'ont pas obtenu ce qu'ils ont voulu, souhaiter, c'est-à-dire repousser un maximum ces élections. Et finalement, les élections ont bien eu lieu. Un président a été élu, un ancien proche de Blaise Compaoré, qui était l'ancien dirigeant de son gouvernement. Mais en tout cas, il y a eu des élections démocratiques. Donc c'est une première étape vers une nouvelle forme de gouvernance au Burkina, puisqu'ils ont vécu quand même bon nombre de coups d'État et de dictatures lourdes et pesantes pour les citoyens.
Est-ce que ces mouvements citoyens, comme le Ballet citoyen, ont présenté des candidats aux élections ?
Non.
Pourquoi pas ?
Alors, c'est pas leur volonté. Leur but, c'est vraiment de conscientiser, c'est leur terme, le peuple, et de leur permettre d'avoir accès justement à différentes informations, de créer cette étincelle citoyenne et d'agir localement sur le territoire, parce qu'ils ont vraiment des missions d'action sociale. Il n'y a pas que la sensibilisation au vote, il y a d'autres actions qui sont conduites par le Ballet citoyen, que ce soit dans le domaine de la santé, de l'environnement, etc. Ils sont très actifs, même après le coup d'État. Des jeunes sont allés ramasser les détritus, parce que en temps de période de coup d'État, un peu de guerre civile, du coup, c'est un vrai bazar, on va dire, sur les routes. Donc, ils ont, à la suite de la prise, la reprise, on va dire, normale, ils ont décidé de...
Mis un coup de balai,
voilà, c'est ça. Voilà.
Comment compte-t-il aujourd'hui se structurer, ce mouvement citoyen ? Est-ce qu'il y a des perspectives ? Est-ce qu'ils vont aller continuer, aller plus loin ?
Les suites du mouvement, je pense qu'en fait, sont certainement liées à l'actualité, puisqu'il y a eu des attentats avec des pertes lourdes. Et c'est vrai que le terme employé par certains porte-paroles du Ballet citoyen, c'est qu'il faut terroriser le terrorisme. C'est leur expression. Et pour eux, ils vont continuer à se battre. Ils sont déjà organisés, en fait. Ils ont des collectifs un peu partout dans les villages, à Bobo, etc. Avec donc des militants, enfin des acteurs qu'ils appellent les Cibales et les Cibelles, pour justement essayer d'aller à la rencontre des populations un peu plus éloignées. Donc ils sont déjà très structurés et organisés. Ça fonctionne, puisqu'ils ont quand même rassemblé énormément d'adhérents, de militants. Et pour illustrer leur devise, c'est notre nombre et notre force. Donc plus la population ralliera ses mouvements, plus l'information circulera et peut-être que du coup on aura encore un bel élan de citoyenneté au Burkina malgré les derniers événements.
Ouais. Malgré tout, il ne se présente pas aux élections.
Non.
Et se cantonne donc dans cet exercice de contre-pouvoir.
Voilà, tout à fait. Ils ont un peu un rôle de vigie, on va dire, d'observation et d'alerte citoyenne et responsable à l'égard de la société burkinabé.
Pourtant, ils ont une figure tutélaire qui à laquelle ils se réfèrent énormément, qui est celle de Thomas Sankara, donc ancien président du Burkina Faso.
Oui, bah alors effectivement, Thomas Sankara... en gros la personnalité la plus emblématique de ces mouvements du ballet citoyen puisque à l'époque où il est arrivé au pouvoir c'est un militaire qui a changé le nom de la Haute Volta en Burkina Faso qui signifie le pays des hommes intègres. Et sa volonté aussi de faire émerger la population burkinabé, d'arriver à rendre autonome le pays, etc. C'était quelque chose qui était très important dans ses décisions politiques et son engagement. L'émancipation de la femme, etc. Il était très très ouvert et c'est en gros le pionnier et celui qui inspire tous les jeunes actuellement présents dans les mouvements citoyens. Il n'y a pas un moment où on n'entend pas parler de Thomas Sankara. Ils font référence à cet homme très régulièrement. C'est un peu comme un devoir de mémoire en fait sur ce qui s'est passé puisqu'il s'est fait assassiner. Maintenant on peut le dire, hein, il n'est pas d'une mort naturelle, il a été assassiné. Les dernières analyses qui ont été récupérées, en fait, son corps était criblé de balles, même sous les aisselles. Donc voilà, c'est quelqu'un qui avait une vraie volonté d'élever le pays et je crois que maintenant beaucoup de jeunes s'en inspirent et vont agir localement et agissent localement déjà.
Oui, c'est un peu une figure similaire à celle de Duce ou de Bolivar en Amérique latine, la figure du libérateur, de celui qui a émancipé le peuple.
Oui, tout à fait, ouais, il est présent partout.
Alors voilà, et alors ce documentaire, vous allez le diffuser en France, vous allez aussi créer un webdoc autour de lui.
Oui, alors la suite, c'est effectivement de réaliser un webdocumentaire, donc c'est beaucoup plus interactif, où on rentrera peut-être plus en détail sur certains sujets, des sujets liés au développement. Donc le film est accessible quand vous tapez dans le moteur de recherche YouTube « Citoyen façon Faso », donc il est accessible gratuitement. C'est un film de 52 minutes. Et il est présent sur des sites partenaires et notamment sur le site de Soli TV. Et l'idée aussi, c'est que pour faire émerger, pourquoi pas, des petites graines d'élan citoyen sur d'autres territoires, c'est de développer donc des échanges, des apéros citoyens où du coup on pourra se servir d'extraits du film pour susciter un peu le débat entre participants dans le cadre d'apéros citoyens, donc quelque chose d'un peu informel et convivial où les gens peuvent croiser leurs idées, leurs opinions, avoir leur ressenti sur les interviews, les personnages qui font partie du documentaire.
Donc voilà, vous avez présenté votre film un peu partout en Rhône-Alpes pour créer ces échanges, ces dialogues, cette émulation.
Voilà, tout à fait. L'idée, c'est de faire circuler le film autant que possible Et pourquoi pas susciter de nouveau Thomas Sankara, on sait jamais.
Voilà, et alors peut-être très bientôt à Bourgoin-Jallieu ou dans le Nord-Isère, et en attendant donc sur YouTube.
Citoyen façon faso, article 30.
Merci beaucoup Annick pour ce témoignage. Notre espace public de janvier se termine. Le temps pour moi de remercier tous nos témoins du jour, Annick Barrand, Lisa Giacchino, Patrick Canin, Thomas Fouret et Laurent, bien entendu Laurent Forcheron, notre technicien génial qui, une fois encore, nous a permis de vous faire entendre cette émission. Je vous souhaite de belles aventures citoyennes et vous retrouverez avec plaisir le mois prochain.